Toute la louange ici a été vraiment bien orientée, je trouve. Vraiment, le Seigneur, il nous ouvre le cœur par l'Esprit Saint. Et je souhaite que vous soyez chacun d'entre vous guidé par l'Esprit Saint toute votre vie, qu'il ne vous lâche pas, que vous ne vous lâchez pas. Soyez bénis. Donc, je voudrais continuer le message que j'avais commencé il y a quelque temps. Simplement, je vais reprendre parce que voilà, il y a des nouvelles personnes et je vais aller plus vite. Voilà. Donc, le sujet, c'est Dieu qui appelle Abraham à quitter son pays. Et c'est dans l'objectif de créer une alliance avec Abraham. Donc, il va faire une première annonce. Ça, c'est dans la Genèse 12. Il lui dit, va-t'en de ton pays. Il dit ça à Abraham. Alors, on pourrait dire Abram, puisque au départ, Abraham n'existe pas, entre guillemets, il sera baptisé après, mais il s'appelle Abram. Donc, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison de ton père. Il lui dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Et Abraham croit en cette parole et il s'en va avec Lot. Il arrive dans un lieu qui s'appelle Bethel, et il a une nouvelle parole de Dieu qui lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. On peut noter que Abraham à cette époque-là, il a 75 ans, qu'il est parti donc avec Lot, qui est le fils de son frère. Dieu donne ce pays à la postérité d'Abraham, or il n'a pas de postérité, il n'a pas d'enfant. Concernant le pays, il n'y a pas de frontière, il ne sait pas quand il l'aura, ni comment, et combien de temps. Et il n'y a pas question d'alliance pour l'instant. La deuxième annonce, elle se passe après une famine au pays de Canaan. Abraham est descendu en Égypte. Et là, pour éviter d'être tué, Abraham dit à sa femme, tu diras que tu es ma sœur. Et c'est ainsi que Pharaon a pris pour femme Sarai. Mais Dieu n'est pas d'accord. Donc il va punir Pharaon et sa maison. Il va frapper de fléau. Il va frapper Pharaon d'un fléau. Et donc Pharaon ordonne de reconduire Abraham et Sarai hors de l'Égypte avec tout ce qui leur appartenait. Donc les voilà partis, Abraham et toute sa famille, ainsi que Lot. Ils arrivent à un endroit où Lot choisit la vallée verdoyante. Abraham lui a donné la possibilité de choisir son chemin. Ils doivent se séparer, ils sont trop nombreux. Et donc, il faut se séparer. Donc, Lot choisit la vallée de verdoyante. Abraham, lui, il est sur les hauteurs. Et c'est là que Dieu lui parle. Voici ce qu'il lui dit. Regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Alors, il faut noter que dans ce qui était dit, la limite du pays n'est pas définie, mais c'est déjà un grand pays, puisqu'il peut regarder tout autour de lui, devant, derrière, à droite, à gauche, tout ça est à lui. Mais Abraham n'a pas de descendants, toujours pas. La troisième annonce arrive quand Abraham sort vainqueur d'une guerre avec plusieurs rois. Il a fait ses guerres pour sauver Lot et sa famille. Donc, Dieu lui apparaît et lui dit, « Ton héritier sortira de tes entrailles. Compte les étoiles, telle sera ta postérité. » L'Éternel lui dit aussi de prendre une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une colombe. Ça, c'est pour préparer l'alliance. Ensuite, l'Éternel lui dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Donc là, je fais une petite note, parce qu'Abraham a eu au total 8 fils et 3 femmes. Et seule la descendance d'Isaac sera asservie. Elle sera asservie pendant 400 ans en Égypte. Donc Dieu ne considère que la descendance d'Isaac pour la promesse de la terre. Dieu lui dit aussi, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance donc avec Abraham et dit, « Je te donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Cadoméens, des Hétiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guirgazaziens, pardon, et des Jébusiens. » Voilà, ici, Dieu définit les limites du terrain, enfin du territoire que Abraham va hériter. Donc, on sait que Abraham n'a pas d'enfant et que ça prend du temps. Et donc, Sarai va lui dire à Abraham, écoute, si l'enfant ne vient pas, c'est que peut-être qu'il faut lui donner un petit coup de main. Et que moi, Sarai, je ne peux pas avoir d'enfant, je suis stérile, mais ce que je te propose, et ça c'était la loi à l'époque, une femme pouvait décider pour son mari de lui donner une femme pour avoir une descendance. Et c'est ce qu'elle fait. Donc il va avoir donc une relation avec Agar et ils auront un fils qui s'appelle Ismaël. La quatrième annonce arrive plus tard et là Abraham est âgé de 99 ans et l'Éternel lui apparaît. Et c'est à ce moment-là que l'alliance va se faire. Il lui dit, je te multiplierai à l'infini. Tu seras père d'une grande nation. Ton nom sera Abraham et non plus Abram. Tu seras père d'une multitude de nations. Des rois sortiront de toi. Il lui propose une alliance perpétuelle. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays comme tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan. Alors là, il faut bien noter Canaan seulement, alors qu'il lui avait proposé à la troisième annonce un territoire immense qui est tout le Moyen-Orient. Et là, il se retrouve uniquement à Canaan. La raison est que Ismaël est arrivé. Et je vais revenir après ici un peu plus tard pour expliquer ce qui se passe. Dieu lui dit aussi que tous les mâles parmi vous seront circoncis. Ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Donc en fait, les Juifs doivent, pour faire alliance avec Dieu, se marquer dans leur chair cette alliance. Ça doit se faire à l'âge de 8 jours. Tout mâle parmi vous, dans toutes vos générations, sera circoncis. Le mâle incirconcis, celui qui ne sera pas circoncis, celui-là sera retranché de son peuple. Il a rompu mon alliance. Sarai devient Sarah. De Sarah, je te donnerai un fils, Isaac. Et là, tout de suite, dans la Bible, au verset 18 du chapitre 17, Abraham lui dit, mais ô Seigneur, que Ismaël vive devant toi. Parce qu'il a peur, il se rend compte que Ismaël va être un frein dans le projet de Dieu et que, Seigneur, ne le tue pas. Il va t'exaucer. Pour Isaac, une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Pour Ismaël, Dieu le bénit et le rend fécond. La circoncision, ce jour-là, se fait le même jour. Tous les mâles de la maison d'Abraham seront circoncis. Abraham a 99 ans, Ismaël a 13 ans. Voilà. L'alliance comprend la promesse de Dieu, mais elle comprend aussi la promesse de la terre, du pays d'Israël. Alors je reviens sur l'épisode de Canaan. Abraham n'a plus que Canaan parce que Ismaël est arrivé. Et donc c'est le fils, il a été circoncis, et donc il est un fils, il a le droit à la terre. Et c'est le premier né. Donc dans la loi hébraïque, c'est lui qui a le droit d'aînesse. Et donc le premier-né a aussi, dans l'héritage, il a deux parts. Et le dernier a une part. Et on divise autant le territoire. Mais là, comme ils sont deux, donc Ismaël, deux parts, Isaac, une part, Canaan. Ismaël a tout le reste. Alors, un épisode qui n'est pas toujours bien compris, c'est quand Abraham donne un grand banquet le jour où Isaac est sevré, c'est que Sarah va voir Ismaël, le fils de l'Égyptienne Agar, qui rit. Il est en train de jouer avec un arc et il rit. Et quand Sarah voit ça, elle demande à Abraham de chasser Agar et Ismaël. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Il rigole et puis on va le chasser. Donc il faut savoir qu'en hébreu, quand on lit les textes hébreux, il y a un mot, Asher Metzamek, qui veut dire effectivement rire, mais rire d'une façon spéciale. On voit ça dans un autre passage, dans Samuel, et Metzarek veut dire un jeu, mais jusqu'à la mort. Et donc ça devient très quelque chose de... Là, maintenant, on comprend que Sarah a vraiment peur pour son fils, Isaac. Ismaël joue avec son fils pour le tuer. Donc, il est chassé. Donc, je vais faire une introduction et une explication, parce que là, maintenant, je vais sortir de la Bible et je vais parler de Midrash. Alors, les Midrash, c'est un peu particulier. Ce sont vraiment les sages d'Israël qui utilisent ça, qui réfléchissent sur la Bible et qui vont utiliser soit une allégorie, soit une parabole, où ils font une étude en fait de la Bible et pour l'expliquer. Donc les sages d'Israël, ils ont conclu qu'en lisant le livre de Daniel 9, que chaque peuple est représenté devant le trône de Dieu. Et il est représenté par une puissance angélique. Cela veut dire que chaque nation a un prince. Par exemple, la France a son prince, etc. Chaque pays aurait son prince. Je vais lire le passage de Daniel où on parle de ça. Daniel prie pendant 3 semaines et reçoit la visite d'un ange. Au bout de ces 3 semaines de prière et de jeûne, l'ange lui dit que dès qu'il a commencé à prier, Dieu l'a envoyé pour lui donner une réponse. Mais il a été retenu par le prince des Perses et de Javan. Voilà. Donc, c'est sur cette histoire-là qu'au XIIe siècle, il y a eu quelqu'un qui a réfléchi là-dessus et qui a fait un midrash. Et donc, c'est vraiment une histoire. Et il met en situation, je dirais, le prince d'Ismaël, qui va aller se présenter devant Dieu. Et il lui dit, « Souverain maître du monde, est-il vrai que celui qui est circoncis a droit à une part dans le pays promis ?» Et Dieu lui répond, « Oui, c'est vrai. » Et le prince d'Ismaël lui répond, « Alors, tu dois donner à Ismaël et à ses descendants le pays que tu as promis à Abraham, parce qu'il a été circoncis. » Le prince continue, « Tu as promis le pays à Isaac et à ses descendants, mais tu ne peux pas non plus ignorer les droits d'Ismaël sur ce pays. » Dieu dit, « Oui, Ismaël a des droits sur ce pays parce qu'il est circoncis, mais sa circoncision est rec ou rech, je sais pas comment on le dit, c'est-à-dire qu'elle est incomplète. Elle est imparfaite et limitée. C'est pourquoi que le fils d'Ismaël posséderont le pays promis aussi longtemps qu'il sera rec de ses habitants. » Et là, le mot rec prend un autre sens, ça voudrait dire vide de ses habitants. Donc, vous voyez, ce mot, le petit mot hébreu, veut dire deux choses différentes. Vide et vaine, limitée. Ensuite, la suite du Midrash dit, « Dans l'avenir, les fils d'Ismaël posséderont la terre sainte, car elle sera vide de ses habitants. Mais quand les fils d'Israël reviendront dans ce pays, les fils d'Ismaël s'opposeront à eux, parce que leurs droits auront pris fin. Le fils d'Ismaël tentera de dresser toutes les nations contre Israël pour qu'elles montent contre Jérusalem, parce que le fils d'Israël se seront constitués en royaume. Donc là aujourd'hui, le royaume, eh bien, il est constitué. Israël est là. On voit bien comment se passe autour d'Israël le comportement des Arabes autour d'eux. C'est la guerre. C'est la guerre. Ils veulent le territoire. Ils veulent tout. Un deuxième midrash. Là, c'est un rabbin qui vivait au deuxième siècle, donc c'est vraiment très loin, qui s'appelle Eliezer ben Hyrcanos. Alors, il a dit ceci. Ismaël dominera 1300 ans sur la Terre Sainte, 100 ans pour chaque année de sa circoncision. Ismaël a été circoncis à l'âge de 13 ans. Dans ce temps-là, les fils d'Ismaël construiront un édifice sur le mont du Temple. Entre le moment où commencera à être construit cet édifice jusqu'au moment où prendront fin les droits des fils d'Ismaël, il y aura exactement 1300 ans. Donc là, je vais m'attarder un petit peu sur ce qui vient d'être dit. Donc, je vous ai dit, Rabbi Eliezer ben Hyrcanos, qui vivait au deuxième siècle, avant Jésus, avant Jésus-Christ, Israël était sous la domination romaine. Ça, il faut bien se rendre compte que les Arabes n'existaient pas à l'époque. Pas de grand territoire. C'est une petite tribu inconnue de tout le monde. Rabbi Eliezer nous dit aussi qu'en faisant... Enfin, en faisant cette lecture prophétique, ce qui est arrivé au père est une prophétie, mais celle-ci arrivera aussi à leur fils. C'est pour ça qu'il prend de la Genèse l'histoire qui a été réalisée, qui a été faite, et il en fait une prophétie. Donc les fils d'Ismaël domineront 13 siècles sur la Terre Sainte, parce que Ismaël a 13 ans. Il a été circoncis à 13 ans. Donc ce rabbi dit aussi, ils établiront un édifice sur le mont du Temple. On ne peut pas dire mosquée. À l'époque, ils ne savaient pas ce que c'était. C'était donc un édifice. Il va encore plus loin. Entre le moment où commencera à être construit cet édifice jusqu'au moment où prendront fin ses droits, les fils d'Ismaël, il y aura exactement 1300 ans. Il faut le faire quand même. Alors, on va faire un petit calcul. Les Arabes ont conquis Jérusalem en 638 avant Jésus-Christ. 10 ans plus tard, on construit l'édifice, la mosquée de Calife Omar, qui a commencé en 648. On ajoute 1300 ans, ça fait 1948. Eh bien, 1948, c'est le jour de l'indépendance d'Israël. Ça a été proclamé par Ben Gourion. Israël est né. 1300 ans. Bon, je ne sais pas comment cet homme a réussi à prophétiser ça, mais c'est réel. Deuxième siècle, on arrive en 1940. C'est un rabbin. Oui, il se base sur la Genèse. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est pas compris, enfin, qui n'est pas connu chez nous par les chrétiens, ou peu. C'est que les rabbins, les juifs, utilisent la Bible comme quelque chose de prophétique. Ils disent « qui est arrivé à nos pères va nous arriver aussi à nous ». Donc ils lisent la Bible, mais avec des lunettes un peu particulières, puisqu'ils visent, alors ils sont guidés par l'Esprit Saint, c'est pas possible, parce que pour arriver à un tel résultat, qui est juste, ils donnent la vérité, c'est surprenant, bah, c'est vraiment, voilà. Et c'est traditionnel chez eux, c'est quelque chose qui... Alors tout le monde ne fait pas de midrash, il faut vraiment être reconnu comme un homme sage et reconnu par le peuple pour faire ce genre de choses. Donc un des plus grands sages de l'histoire d'Israël, qui s'appelle Rabbi Moshe, et lui il vivait un peu au XIIIe siècle, il a dit ceci, « Lorsque les fils d'Israël reviendront dans leur pays au temps de la fin, ils auront oublié la Torah. » C'est étonnant. Rabbi Moshe se pose la question, comment est-ce possible si au temps de la fin, le peuple d'Israël, qui a oublié la Torah, comment pourra-t-elle récupérer sa terre? Oui, parce que pour récupérer la terre, il faut respecter des règles. Moïse dit au peuple d'Israël, si vous mettez en pratique les paroles de cette Torah, alors vous serez bénis dans vos champs, dans vos vignes. Un seul d'entre vous mettra 10 000 en fuite parmi ses ennemis. Vous serez la tête et non la queue. Là, je cite la Bible. Hein. Mais si vous mettez en pratique les paroles de cette Torah, c'est l'inverse qui se produira. Tu seras maudit dans tes champs et dans tes vignes. Et l'Éternel, ton Dieu, te dispersera aux extrémités de la terre. C'est ce qui s'est passé au moment où Israël s'est séparé en deux. Il y a eu Juda d'un côté, il y a eu Éphraïm de l'autre. Il y a eu des guerres entre eux. Et à un moment donné, Éphraïm a été dispersé dans le monde. Éphraïm, c'est la partie... Je reviendrai après, j'expliquerai après. Donc, il aura oublié toute la Torah. Il y aura au moins un commandement qu'il gardera. C'est le commandement de la circoncision. Dieu a dit à Abraham, « Toi et tes descendants, vous garderez dans votre chair le signe de mon alliance avec vous. Et le fait de garder le seul commandement sera suffisant pour que devant Dieu, il puisse retrouver ses droits sur la terre au temps de la fin. » Bon, c'est Rabbi Moshe qui parle de ça. Hein. Donc, c'est au XIIIe siècle. Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il dit vrai? On s'en sait rien. Aujourd'hui, on est dans les temps où, effectivement, Israël se rassemble. Donc, il faut comprendre de quel fils il parle, parce qu'il parle d'Israël. Et aujourd'hui, en Israël, il y a d'abord la tribu de Juda, qui est l'essentiel aujourd'hui qui peuple Israël. C'est Juda. Et Juda, il a été partout disséminé aussi dans le monde entier. Et il y en avait beaucoup en Europe. On les a bien massacrés. Ils sont retournés chez eux. Il y en a encore en France. Il y en a encore un peu partout dans le monde. Mais de plus en plus, ils rentrent chez eux. Mais là, on parle d'Israël. Et là, Rabbi Moshe ne pouvait pas savoir que aujourd'hui, il y aurait Israël en tant que pays. Donc il parle de Israël, et Israël c'est Jacob qui a trompé son frère, enfin son père pardon, en mettant c'est l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Hein, donc Jacob reçoit la bénédiction de son père, mais il reçoit pas la bénédiction de Dieu, et donc il est chassé de sa maison pendant une vingtaine d'années, et au bout de 20 ans il veut rentrer, donc il dit à son frère, il envoie des missives à son frère, à Ésaü, il veut rentrer. Son frère va au devant de lui, mais avec 400 hommes pour en découdre. Donc Jacob a vraiment peur. Il prie et toute une nuit, et il a un combat intérieur, et ce combat il le fait avec un homme qu'on appelle le rachetant. Et il lui demande sa bénédiction. Il lui demande cette bénédiction. Et donc ce combat arrive jusqu'au matin. Et au matin, le rachetant lui dit, mais quel est ton nom? Et là, mais il lui dit, je suis Jacob. Et il lui dit, voilà, la vérité, qui n'est pas le fils aîné, qui n'est pas... Et là, c'est Dieu qui lui dit, voilà, tu as ma bénédiction. C'est à ce moment-là que Jacob peut porter vraiment le flambeau de la famille. Donc il est dans la lignée d'Abraham, de Isaac, Jacob, Israël, et ensuite Jacob aura deux femmes. Donc il aura Léa et Rachel. D'un côté il y aura Juda, qu'on connaît, qui est en ce moment en Israël, qui est un peu partout dans le monde aussi, et Joseph. Joseph aura deux fils, Manassé et Éphraïm. Et Jacob, donc le grand-père, va donner sa bénédiction aux deux enfants, à Manassé et à Éphraïm. Mais il va choisir Éphraïm, qui est le cadet, le deuxième, en disant, il sera une grande nation. C'est lui, c'est sur lui qui transmet sa bénédiction. Pour Judas, c'est l'héritage physique de la terre. Et pour Éphraïm, c'est l'héritage spirituel. Éphraïm, alors, où est Éphraïm? Où est-ce qu'il est en ce moment? On trouve la réponse dans la Genèse 48, 16, si vous voulez regarder. Donc moi j'ai la 70. Genèse 48, 16. Que l'ange qui m'a tiré de tous mes périls bénisse ces deux enfants. En eux seront invoqués mon nom et le nom de mes pères, Abraham et Isaac, qu'ils se multiplient à l'infini sur la terre. Ça ressemble un peu ? Dans le pays. Une autre version, celle de Chouraki. Le messager qui me rachète de tout le mal bénit les jeunes. Mon nom sera cité sur eux, crié sur eux, pardon. Et le nom de mes pères, Abraham et Isaac, ils poissonneront multiples au sein de la terre. Ils poissonneront. Donc c'était, je vous montre, hein, c'était une étude biblique faite par Daniel Sten. Et donc on a pris le verset en hébreu. Je vais vous dire le verset en hébreu. Donc c'est très brutal parce que c'est pas du français. Le messager, le rachetant, moi, de tout mal, qu'il bénisse les garçons et qu'il soit appelé en eux mon nom et le nom de mes pères, Abraham et Isaac. Ils poissonneront en multiples à l'intérieur de la terre. C'est un peu bizarre, mais ça vous donne une image de ce qui se passe. Éphraïm a été dispersé dans le monde et il poissonne. Et il poissonne depuis, partout, dans les îles, sur les terres, dans le monde entier. Ils en ont oublié leur origine, ils ne savent plus qui ils sont. Et donc, bah ils sont parmi nous, quoi. Et on ne peut pas les identifier. On peut même se poser la question, et moi, qui suis-je? Est-ce que je suis un enfant d'Éphraïm? J'en sais rien. Mais c'est vraiment quelque chose qui me travaille, qui m'habite, parce que il y a quelque chose là, effectivement, d'extraordinaire. Et je pense que la réponse, elle vient de Jésus. Jésus nous a rachetés sur la croix. Et donc, Éphraïm peut être parmi les chrétiens, parmi d'autres religions, je ne sais pas, parce qu'ils en ont oublié tout. Mais Jésus est là, il va racheter Israël. Il va racheter les enfants d'Éphraïm. C'est mon interprétation. Hein. C'est... Après, voilà, on peut réfléchir à ça. Et pour conclure, donc, je vais parler de Romains, dans le verset 15 à 8. Donc il est dit, je dis que le Messie Jésus a été fait serviteur des circoncis pour confirmer les promesses faites au Père, tandis que les païens bénissent Dieu pour sa bonté. Aussi est-il écrit, louez-le, nation avec son peuple. Donc ça c'est vraiment un encouragement pour l'unité. Les païens, les nations, on va louer Dieu avec son peuple. Amen. Donc voilà, Seigneur, je fais cette petite prière. Seigneur, bénis tes enfants. Que chacun ait sa place dans ce monde et reçoive ce qu'il doit recevoir. Mets dans le cœur des hommes et des femmes, par ton Esprit Saint, Mets-leur dans le cœur à qui ils appartiennent. Voilà, Seigneur, bénis-nous. Rends-nous forts. Augmente notre foi, Seigneur. Amen.